Nous n'avions même plus les moyens de nous payer un litre de lait. Pour une crise, c'était une crise.
Le président Roosevelt déclarait : la seule chose dont nous devons avoir peur, c'est de la peur elle-même.
Ce fut la plaque tournante de toute la vie de l'Amérique.
Le 24 octobre 1929, la panique s'empare de la bourse de New York. C'est le jeudi noir. 13 millions d'actions sont vendues, les cours s'effondrent. Les débiteurs ne peuvent plus faire face à leurs échéances. Des banques suspendent leurs paiements. Des industriels mettent la clé sous la porte. Des millions d'Américains sont sans travail.
Al Capone, roi des gangsters. Une grande traversée de Federico Polo De Voto et Marie-Laure Ciboulet.
The moment that Capone...
À partir du moment où Capone conforte son pouvoir sur la ville de Chicago, c'est le début de la fin, et elle est inéluctable. Le massacre de la Saint-Valentin se produit en février 1929. Le krach boursier intervient, lui, un peu plus tard, en octobre. Les gens perdent toutes leurs économies, toute leur épargne, jusqu'à leur maison, leur travail. Les dépenses excessives, la richesse ostentatoire et l'immoralité d'Al Capone remportent nettement moins l'adhésion des foules. S'ajoute à cela l'élection du président Hoover à la Maison-Blanche. Il est élu grâce à son pédigré d'ingénieur. On pense qu'il est quelqu'un de rationnel, qui saura faire fonctionner les choses. Mais il se retrouve soudain plongé dans une crise pour laquelle il n'a aucune compétence. Il ne peut pas empêcher la crise économique. Il ne peut rien faire pour alléger les souffrances des gens qui ont tout perdu. Par contre, il y a une chose qu'il peut faire, c'est agir contre ce bandit qui bafoue, aux yeux de tous, la loi dans la ville de Chicago. Épisode 4, plus dur sera la chute. À la fin des années 20, Capone est à l'apogée de sa carrière criminelle. Il a le monopole du crime à Chicago. Le jeune Italo-américain a fait son chemin dans la pègre depuis ses débuts à New York. À l'orée de la trentaine, on a du mal à imaginer ce qui pourrait lui arriver. Après tout, avec le massacre de la Saint-Valentin, il a porté un coup fatal à ses ennemis qu'il a éparpillé façon puzzle. Mais, pour Al, le moment où il arrive au sommet marque aussi le début de la chute.
Et quand la prohibition s'installe, très très vite, ça génère énormément d'argent et donc de violence, puisque les gangsters commencent à se tirer dessus. Entre gangsters, on se sert de cette nouveauté, la Tommy Gun, cette mitraillette qui est très puissante mais qui très vite fait aussi des dégâts collatéraux dans les rues en touchant des personnes innocentes.
Scott Sroka, procureur fédéral et petit-fils d'un des incorruptibles.
Et la conséquence, c'est que plus personne ne veut faire du business à Chicago. Les gens qui font des affaires en toute légalité ne veulent plus faire du business à Chicago parce que c'est perçu comme un endroit trop violent. Donc des chefs d'entreprise, comme les dirigeants de Sears Roebuck Company et d'autres, mettent la pression sur le gouvernement fédéral pour qu'il intervienne. La police locale est en grande partie corrompue et il n'y a pas sur place une force de police fédérale organisée. Donc les patrons des entreprises de Chicago mettent la pression sur Herbert Hoover, pour qu'il s'occupe de cette violence dans les rues de Chicago. Et c'est finalement ce qui a incité le président Hoover et le gouvernement à s'impliquer.
Brad Schwartz, historien et auteur d'un ouvrage consacré à Al Capone et Elliot Ness.
Alors il se met à insister auprès du ministère de la Justice et auprès de celui du Trésor pour qu'il fasse quelque chose au sujet d'Al Capone. Il a une bonne raison politique de faire ça. Les milieux économiques, l'élection présidentielle qui doit avoir lieu en 1932 et un an après, l'exposition universelle que la ville a prévu d'organiser et qui est un objectif majeur. L'idée était déjà en germe avant le krach, mais lorsque la Grande Dépression s'abat sur la ville, ça devient le seul espoir de sauver Chicago, qui souffre encore plus que d'autres endroits des États-Unis au tout début de la Dépression. Donc, la communauté économique légale a besoin de quelque chose qui répare, qui sauve l'économie locale. Et pour parvenir à cet objectif, il faut qu'il se débarrasse de l'homme dont la figure est devenue l'emblème de la ville de Chicago. L'homme dont le visage s'imprime sur la couverture du Time Magazine. Aujourd'hui encore, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur le globe, lorsqu'on dit qu'on vient de Chicago, on vous répond Al Capone.
Chicago, back in the USA, back in the bad old days. In the heat of a summer night, in the land of the dollar bill, in the town of Chicago.
Il y a cette volonté aussi de montrer sans doute qu'il n'y a pas une impuissance totale de l'État.
Clotilde Champerrache, économiste et spécialiste de la mafia et de l'économie illicite.
Donc on va cibler, c'est l'invention du terme d'ennemi public numéro un, avec Capone, la tête de Capone qui est véritablement mise à prix. Et c'est un peu une erreur aussi de diagnostic sur le crime, ou alors c'est fait exprès parce qu'on ne veut pas combattre totalement le crime. Mais on va cibler un homme comme s'il n'y avait pas derrière lui une organisation, voire même des organisations. C'est vraiment Haro sur cette personne-là, et ce qui permet de focaliser le regard là-dessus. Et en plus, ce qui est pratique avec Capone, même s'il est né aux États-Unis, c'est un étranger d'origine. Ça permet aussi de stigmatiser des ethnies, des migrants en particulier. Et ça, ça va se développer plus tard dans les années 60 avec le témoignage d'un ancien mafieux qui est en fait un petit mafieux, mais les révélations qu'il va faire vont être publicisées. On va un peu les grossir aussi. Hein, le procès Valak qui va donner ces informations-là. Et on développe la thèse de la conspiration étrangère. C'est-à-dire le crime n'est pas dans l'ADN américain. Ce sont les étrangers qui font ça, et c'est un corps extérieur qui permet aussi justement de pas trop s'attaquer à l'américain. Ça va aussi être une façon de plus trop mettre l'accent sur le fait qu'il y a une partie de l'économie légale qui participe à ces systèmes-là, qui le facilite, soit par tolérance, soit par complicité. Et donc, on réduit la focale et on cible tout sur un homme qui revêt tous les péchés du monde, alors qu'il n'est pas si important que ça en termes criminels.
La Crime Commission est un groupement de personnalités civiles qui s'est formé en 1919 à cause du crime galopant à Chicago.
Wayne Johnson, ancien chef de la division du crime organisé de la police de Chicago.
Elle est donc composée de personnalités civiles et d'acteurs de la vie économique qui ressentent les dégâts que ce crime cause au commerce de Chicago et ce que ça leur coûte à eux et à leurs clients. Ils ont donc l'intention de faire quelque chose. C'est pourquoi ils montent ce groupe composé de chefs d'entreprise, de cadres dirigeants qui ont du poids, qui sont en capacité de passer un ou deux coups de fil à Washington, D.C., auprès d'un sénateur, des représentants du Congrès et même jusqu'au président. On raconte cette histoire que c'est un voisin d'Herbert Hoover qui se serait plaint à lui au sujet d'Al Capone, qui avait été son voisin en Floride. Et que c'est ça qui aurait permis l'intervention de la police fédérale à Chicago. Mais il y a une autre histoire qui dit, cette fois, que l'intervention des fédéraux est due à un ancien procureur, Frank Loesch, qui se trouvait à la tête de la Crime Commission à Chicago et qui était quelqu'un d'extrêmement déterminé.
La création de la Crime Commission de Chicago est financée par des donations privées assez conséquentes.
Geoff Schumacher, vice-président des programmes du Musée du crime organisé à Las Vegas.
La commission commence par effectuer des enquêtes et des rapports sur le crime organisé à Chicago. Ils ont l'idée de créer une liste d'ennemis publics, c'est-à-dire les gens les plus recherchés, les criminels les plus importants de la ville. Et ils ont surnommé la personne qui apparaissait tout en haut de la liste l'ennemi public numéro un. Et Al Capone était en haut de cette liste dès la première année.
Alphonse Capone, Joe Aiello, George Redbecker, James Belfast, Ralph Capone, Hank Diamond, Terry Dregard, Rocco Fanelli, Joseph Gennaro, Jack Guzzi, Frank Lay, Lawrence Mangano, Frank McErlan, Vincent McErlan, Jack McGurn, Leo Mongovan, George Bugs Moran, William Niemann, Edward Spike O'Donnell, William Klondike O'Donnell, Frank Rio, Joe Salty, James Purcell, Dennis Stanton, Tony Mops, William Freefinger, Jack White.
Je crois que la motivation derrière cette liste, c'était de monter les gens contre ces individus, de changer la perception qu'en avait le public. Parce que vous savez, au début de la Prohibition, au tout début, Les mafieux étaient plutôt perçus de manière positive par la plupart des gens, parce qu'ils fournissaient l'alcool, qu'on n'arrivait pas à avoir autrement. Et dans l'esprit des gens, c'était pas très grave ce qu'ils faisaient. Ils rendaient service, ils procuraient juste aux gens ce qu'ils voulaient. C'est quand la violence s'est aggravée que la perception a changé. En plus, quand la Grande Dépression a frappé, il se trouve que beaucoup de ces mafieux ont été très généreux. Ils créaient de l'emploi, ils s'occupaient des gens, de manière quasi philanthropique. Vous savez, Al Capone, il a ouvert une espèce de soupe populaire où n'importe qui pouvait recevoir à manger. Les gens très démunis y faisaient la queue et il y a consacré beaucoup d'argent. Il était aussi extrêmement généreux avec les musiciens de jazz. Il avait une pléiade de clubs à travers Chicago, avec des musiciens noirs qui venaient du Sud. Il leur versait des cachets comme il n'en avait jamais eu de toute leur carrière. Il aimait aussi donner de gros pourboires. Voilà, tout ça, ce sont des exemples de ce que faisait Al Capone pour entretenir de bonnes relations avec ses concitoyens. Et ce que la Crime Commission de Chicago voulait faire passer comme message, c'est qu'au contraire, c'était un meurtrier, que c'était un voleur, qu'il enfreignait la loi. Bref, que c'était quelqu'un de mauvais. Pas quelqu'un qu'il fallait célébrer et féliciter, non. Quelqu'un qu'il fallait mettre en prison.
Apart from the Crime Commission, there was this shadowy group of kind of business and civic leaders called the Secret Six.
Paul Durica, directeur des expositions au Musée d'histoire de Chicago.
En plus de la Crime Commission de Chicago, s'était créé un groupe occulte d'hommes d'affaires influents et de personnalités civiles qui s'appelait le Secret Six, la bande secrète des six. Encore aujourd'hui, on se demande qui faisait vraiment partie de ce groupe. Certains noms circulent, comme celui de Julius Rosenwald, qui était le PDG de Sears Roebuck Company. Des personnalités comme Samuel Insull, qui fournissait toute l'électricité à la ville de Chicago, l'équivalent de Commonwealth Edison aujourd'hui, et d'autres personnages éminents. Leur action a consisté en gros à financer des enquêtes sur les grands patrons du banditisme. Leur priorité est devenue la destruction de la mafia de Chicago, l'outfit de Chicago, d'abord pour la ville elle-même, mais pour toute la nation dans son ensemble. Ils se sont donc mis à exercer une sorte de pression sur les dirigeants de la nation afin qu'ils agissent.
The strategy that the federal government used to pursue Al Capone was a new one because the whole idea.
La stratégie que le gouvernement fédéral a mise en place pour poursuivre Al Capone était innovante parce que le concept même de crime organisé était également quelque chose d'innovant, un phénomène nouveau. Il n'y avait pas eu à proprement parler de crime organisé jusqu'à présent. Et donc les lois et les procédés législatifs pour combattre le crime organisé n'existaient pas encore. Il a donc fallu créer un projet pilote pour voir si le gouvernement était vraiment en capacité de s'attaquer au crime organisé d'une manière probante. Et ils ont finalement opté pour une stratégie à deux vitesses. La première s'appuyait sur les incorruptibles et le ministère de la Justice. George E.Q. Johnson, qui était le procureur général de Chicago. Ce premier volet de la stratégie consistait à enquêter sur les violations de Capone du Volstead Act, la loi sur laquelle on s'appuyait pour faire respecter la prohibition. Et le rôle d'Eliot Ness et des incorruptibles, c'était de rechercher et de détruire les moyens de production d'alcool et par conséquent, les moyens qu'avait Capone de se faire de l'argent. Ils ont rassemblé au moins 5000 cas d'infraction à la loi sur la prohibition. Pendant ce temps, sur un autre plan, Elmer Irie et Frank Wilson, de l'Internal Revenue Service, ont commencé à s'intéresser aux revenus d'Al Capone. Ils ont suivi la piste de son argent et se sont rendus compte qu'il n'avait pas payé d'impôts sur d'énormes sommes d'argent. Et ces deux enquêtes parallèles ont eu lieu aux alentours de 1930-1931.
Eliot Ness, chef du groupe d'agents fédéraux, connu sous le nom des Incorruptibles.
À la demande de la municipalité de Chicago, le gouvernement fédéral, et plus particulièrement le ministère des Finances, ont décidé de lancer une opération exceptionnelle pour endiguer le trafic d'alcool et la violence qui en découle.
Monsieur Ness,
et en
pourquoi
a consisté cette opération ? Assister d'autres fonctionnaires des finances, je travaillerai en coordination avec les services de police de Chicago. Et cette collaboration...
C'est pas encore une opération fantôme destinée à noyer le poisson.
Que pensez-vous de la prohibition, monsieur Ness ?
Est-ce que vous buvez, monsieur Ness ?
Allons, monsieur Ness, répondez à la question.
Oui. Non, ce n'est pas pour noyer le poisson. Et je vais vous dire très exactement ce que je pense de la prohibition. Je pense que la loi, c'est la loi.
Clotilde Champérage, on a l'image qui s'est créée, le mythe Capone, de la même manière qu'on aura le mythe Elliot Ness qui se créera en réaction le policier idéal.
Oui, alors paradoxalement, Elliot Ness ressemble à Al Capone dans sa façon de faire. C'est-à-dire que c'est pas le plus important dans l'équipe qui va s'attaquer à la criminalité, même si bon, il a fait son travail et il fait partie de l'histoire de la lutte contre le crime organisé, mais c'est aussi quelqu'un qui voilà, fait venir la presse, qui fait des déclarations, qui se met fortement en avant. Alors, campagne de communication qui joue un rôle dans aussi la réception par la population de l'importance de lutter contre le crime. Mais là aussi, on va survaloriser un personnage et puis bah, c'est l'affrontement de deux hommes, là où on ne voit pas que c'est l'affrontement entre une organisation et l'institution.
Alors, Elliot Ness, c'est un peu le revers d'Al Capone. Et en fait, on va dire tous les deux existent aussi par leur médiatisation.
Hélène Arter, historienne spécialiste de l'Amérique du Nord et autrice des Incorruptibles contre Al Capone.
Finalement, Ness est un jeune homme, lui produit plutôt d'une immigration blanche anglo-saxonne protestante, qui finalement a des relations familiales qui vont lui permettre d'être retenu pour faire partie de cette équipe, et qui va être médiatisé, alors pour deux raisons, c'est-à-dire qu'on a besoin d'incarnation dans le cadre de la lutte contre le crime organisé. On le sait bien, si on vous dit le gouvernement fédéral comme ça, vous voyez pas trop de quoi on parle. Si vous voyez un individu en action plutôt sympathique et qui réussit, ça marche mieux. Et puis les journaux ont besoin aussi de cette incarnation, parce que ils vont jouer finalement les deux facettes, le bien, le mal. Et ça marche, et ces journaux sont aussi des journaux populaires du sensationnel. Donc c'est une formidable histoire à raconter.
Elliot Ness gets far too much credit from the media for what he did.
Richard Lindbergh, historien spécialiste du crime organisé à Chicago.
Les médias ont attribué beaucoup trop d'importance à Elliot Ness. Elliot Ness se rend à Chicago en 1930, au moment où Capone est l'objet de plusieurs enquêtes. Mais c'est en fait un personnage assez périphérique dans toute cette histoire. Il est devenu célèbre dans les années 50 grâce à la biographie d'Oscar Freiley et quand les studios Desilu, la compagnie de production de Desi Arnaz et Lucille Ball, les deux célèbres comiques de la télévision américaine, ont acheté les droits à Freiley et ont produit la série The Untouchables, les Incorruptibles, qui a eu beaucoup de succès pendant trois saisons à la fin des années 50, début des années 60. Et puis, bien sûr, il y a le film de 1987. J'ai d'ailleurs un truc marrant à vous raconter au sujet du réalisateur. Il est venu nous rencontrer à Chicago et on lui a expliqué qu'en réalité, avec le recul, si on avait une vision vraiment globale, c'était un personnage très secondaire qui avait exercé une influence mineure. Et il était tellement déçu d'entendre ça, mais tellement. On lui a dit que ce qu'on voyait dans la série à la télévision, c'était pas la réalité, c'était en grande partie inventé, que c'était de la fiction. Alors il m'a dit, mince alors, on va devoir faire un film sur un second couteau. Et pour finir, c'est Kevin Costner qui a interprété Elliot Ness et le film a eu un très grand succès. Mais l'importance de son rôle est très exagérée.
There are more myths about Elliot Ness, yes, than about his cousin, the Loch Ness, yeah, of Scotland.
Right. C'est notre monstre du Loch Ness local à Chicago. Non, je ne voudrais pas minimiser son action, mais en fait, il n'a eu que très peu d'importance. Non, encore une fois, c'est un personnage très mineur dans cette histoire.
Elliot Ness, technically, was born in Chicago.
Factuellement, Elliot Ness est bien né à Chicago, contrairement à Al Capone, qui est un transfuge. Il est bien né ici. Mais en fait, pour tout ce qui compte vraiment, Elliot Ness n'est pas d'ici. Il vient d'un petit quartier, très très au sud de la ville, qui ressemble vraiment à un village, avec le policier qui fait des 100 pas, une population qui gagne honnêtement sa vie en travaillant dur. Le père de Capone était coiffeur. Ness, son père, était boulanger. Une boulangerie qui marchait très très bien dans la ville de Chicago. L'exemple que lui donne son père, c'est que pour réussir aux États-Unis, il faut travailler dur et obéir à la loi.
work hard, play by the rules. Elliot Ness would say that he was most proud to be the son of a man who never cheated.
Elliot Ness disait souvent qu'il était tellement fier d'être le fils d'un homme qui n'avait jamais volé de toute sa vie, ne serait-ce qu'un centime à un client. Et ça, il y croyait vraiment. L'environnement dans lequel il est élevé est bien différent de celui d'Al Capone. Et c'est un environnement dans lequel il est très important de bien se conduire. Il est élevé dans le culte de la science chrétienne, ce qui veut dire que l'alcool ne fait pas partie de son éducation. Pour autant, il ne croit pas vraiment à la prohibition. Il n'y adhère pas totalement. Il fait ses études à l'université de Chicago et Ness a un beau-frère qui s'appelle Alexander Jamie, qui est un immigré originaire d'Écosse, qui est recruté dans ce qui était initialement le bureau d'investigation et qui deviendra par la suite le FBI. Et Ness idéalise totalement son beau-frère. Il a lu les aventures de Sherlock Holmes en grandissant. Il a toujours voulu être un détective, mais dans le genre de Sherlock Holmes, un scientifique qui connaît les arts martiaux, qui sait se défendre. Et dans son jeune esprit imaginatif, Alexander Jamie, son beau-frère, l'agent du bureau d'investigation, incarne exactement cela. Ainsi, quand Ness va à l'université pour suivre des études de commerce et de sciences politiques, il pratique le jiu-jitsu sur son temps libre. Il suit des cours de droit. Il apprend à tirer, même si, en fait, il détestait les armes à feu et n'en a jamais porté. Ce qui l'attire, c'est le danger, la poussée d'adrénaline. Il devient complètement accro à cette sensation quand il devient un agent de la prohibition. Il raconte que ce qu'il préfère dans son travail, c'est faire irruption dans une brasserie, faire sursauter tout le monde et découvrir des choses auxquelles vous ne vous attendiez même pas. Autant Al Capone est dépendant ou addict à la gloire, à l'intérêt des gens pour lui, autant Ness a besoin de cette sensation d'excitation. Il aime aussi l'autorité. Une autre chose qu'ils ont en commun, c'est que, d'après les gens qui les ont rencontrés, dans les deux cas, on n'arrivait pas à croire que la personne qu'on voyait avait pu accomplir les actes qu'on lui prêtait. Par exemple, pour Ness, dans des situations où il avait à rencontrer des gens, il était tellement timide, tellement effacé. Quelqu'un a même dit que dès qu'on était plus de deux dans la pièce, il était complètement perdu. De la même façon qu'Al Capone aspire à être un nouveau genre de criminel, Elliot Ness aspire à être un nouveau genre de policier. Et c'est pour cela qu'il rejoint le bureau d'investigation dès 1926, à 23 ans, et que tout comme Al Capone, il se retrouve là, pile au bon moment et pile au bon endroit. Parce que c'est quelqu'un de motivé, d'honnête, et qu'il est courageux. Il est prêt à prendre les risques nécessaires. Et quand on va avoir besoin de quelqu'un pour prendre la tête de l'enquête en matière d'investigation à la prohibition, Ness apparaît comme le choix évident.
J'ai une dernière chose à vous dire. Je sais qu'il arrive à certains d'entre vous de boire. Ce que vous avez pu faire jusqu'à aujourd'hui ne me regarde pas. Mais nous devons être absolument irréprochables à leur rester sobres. Que certaines boissons fassent mal ou non, la question n'est pas là. Certaines n'en font peut-être pas, mais l'alcool est interdit à la consommation. Et puisque nous devons faire respecter la loi, soyons les premiers à montrer l'exemple.
Y a-t-il des questions ?
Bien. Un agent du ministère des Finances a réussi depuis quelque temps à s'infiltrer dans le milieu. Nous avons été avertis par cet informateur qu'une cargaison très importante de whisky canadien vient d'arriver à Chicago. Alors messieurs, si vous vous êtes engagés pour passer à l'action, vous allez être servis.
My grandfather Joe Leeson was one of Elliot Ness's untouchables.
Mon grand-père, Joe Leeson, faisait partie des incorruptibles d'Elliot Ness. Quand Elliot Ness a pris la direction du bureau de la prohibition à Chicago, on lui a demandé de former une unité spéciale composée d'agents fédéraux d'élite, capables de résister à l'argent, aux pots de vin, aux dessous de table. Il recherchait des agents avec des compétences et des caractéristiques particulières. À l'époque, mon grand-père était agent à Détroit et il combattait le Purple Gang, un autre gang de l'époque de la prohibition, mais de Détroit, celui-là. Vous connaissez peut-être la chanson « Jailhouse Rock » d'Elvis, Elvis Presley. Eh bien, elle parle du Purple Gang. Donc, le Purple Gang opérait à Détroit, et mon grand-père, dès qu'il est devenu agent fédéral en 1928, il a été nommé à Détroit. Il venait de l'Indiana, et là-bas, il travaillait comme technicien des chemins de fer. Il réparait des locomotives géantes et il utilisait pour cela un chalumeau à l'acétylène. Et c'est comme ça que quand il est devenu agent fédéral, il s'est servi de ses talents avec le chalumeau pour démonter les alambics et détruire le matériel des brasseries. Il est aussi devenu expert en filature automobile. Donc Ness l'a fait venir de Détroit pour l'aider à suivre les suspects en voiture. Il est devenu également expert en écoute téléphonique et après quelques temps, il a rejoint les Incorruptibles.
Ness et ses hommes ont été surnommés les Incorruptibles, mais en américain, on dit les Intouchables. Et d'après ce que l'on sait, c'est un procureur, George Johnson, qui serait à l'origine de ce surnom. Parce qu'on est en 1931, quand ils se mettent à faire des raids, quand l'équipe de Ness se lance dans ses perquisitions dans les brasseries. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là de l'autre côté du globe? Qui fait les gros titres? C'est Gandhi qui est en train de déployer tous ses efforts pour que la situation des intouchables s'améliore en Inde. Et ce terme, on le voit donc dans tous les journaux de Chicago. Alors, George Johnson et d'autres commencent à s'en servir pour parler de l'équipe, pour rigoler. Ils commencent à l'employer en parlant d'eux, pas comme un compliment, mais pour souligner qu'à Chicago, puisque l'administration est corrompue jusqu'à la moelle, la police ne veut surtout rien avoir à faire avec eux. Ils sont comme des intouchables. Personne ne veut être en contact avec eux de près ou de loin. Ils sont intouchables, ils sont tout seuls. Et c'est George Johnson qui va leur dire « c'est votre force ». On vous appelle intouchable, incorruptible, ça veut bien dire qu'on ne peut pas vous acheter, vous corrompre, vous influencer, vous faire peur. Ils sont vraiment intouchables.
Il va falloir pas mal de camions pour transporter 5000 caisses.
Ce qu'il faudrait savoir surtout, c'est où ils ont l'intention d'accoster.
Allô ?
Espérons que les gardes-côtes patrouilleront de ce côté-là.
Ce coup de téléphone lui coûte 300 000 dollars.
La mise sur écoute téléphonique est devenue le principal instrument des incorruptibles pour obtenir des informations sur Capone et sur son gang. Et aujourd'hui, moi, je suis enquêteur fédéral ici aux États-Unis et les écoutes sont vraiment devenues très sophistiquées. On utilise l'informatique et en pressant juste sur un bouton, vous voyez, on est capable d'écouter les conversations téléphoniques de quelqu'un. Mais à l'époque, les écoutes, c'était presque primitif. Il fallait littéralement physiquement intercepter l'appel. Ça voulait dire grimper tout en haut d'un poteau téléphonique en bois. Et là, il fallait que quelqu'un, un autre agent, soit présent, infiltré dans l'établissement que vous vouliez espionner. L'agent devait décrocher un téléphone et celui sur le poteau devait essayer un à un tous les fils jusqu'à ce qu'enfin, il entende la voix de son collègue et là seulement, il savait qu'il avait trouvé la bonne ligne téléphonique. Pendant ce temps-là, les agents sur le terrain devaient créer une diversion pour que les gangsters ne soient pas présents dans les locaux. Alors d'autres incorruptibles passaient par exemple dans des voitures pas très discrètes qui faisaient penser à des voitures de police pour essayer d'éloigner les gangsters. Et ensuite, pendant qu'on avait un deuxième incorruptible qui montait sur le poteau et écoutait, il fallait aussi que d'autres agents se tiennent dans un appartement vide pour écouter au casque les conversations que les gangsters entretenaient au sujet de leurs activités criminelles et ils devaient les retranscrire.
So Ness gets the idea that if you can
Ness a alors l'idée que, en coupant le robinet de leurs revenus, on va pouvoir affaiblir le gang de manière significative. Parce qu'il n'aura plus la capacité de graisser la patte des politiques ou de payer des cautions quand ces gars se feront arrêter lors des descentes dans les brasseries. Toute l'organisation va trembler sur sa base et s'effondrer. Et c'est pour cela que, quand Ness est nommé à la tête de cette unité en décembre 1930, les brasseries sont les premières visées parce qu'on veut tarir la source de ses revenus. C'est aussi parce qu'on veut réunir des preuves de violation de la loi en bande organisée. Pendant des années, ils avaient fait des descentes dans les speakeasies et ils avaient arrêté des gens. Ils avaient gâché bien des soirées sur Chicago, mais ça n'avait mené nulle part. Alors, ils laissent tomber un peu les speakeasies. Enfin, non, ils continuent à surveiller ces bars clandestins, mais ce qui les intéresse, ce sont les tonneaux. Ils essaient de suivre les tonneaux, et particulièrement les tonneaux vides. Parce que Ness s'aperçoit que les tonneaux sont réutilisés plusieurs fois et l'organisation de Capone se voit d'ailleurs comme une organisation moderne et elle se targue de faire très attention à l'hygiène. Donc, il récupère les tonneaux vides, il les lave et il les réutilise. C'est pour cela que Ness et ses hommes suivent les camions qui ramassent les tonneaux à la sortie des speakeasies et les emmènent à une espèce de centrale. Ness et ses hommes pensaient que c'était une brasserie. Et non, ce n'était qu'un point de lavage. Ensuite, ils ne font pas tout de suite une descente, ils continuent à les suivre. Les camions vont ensuite les guider jusqu'aux brasseries où la bière est fabriquée. Et une fois qu'ils sont autour du lieu, ils observent et surveillent pendant des jours, des semaines. Et quand ils ont la certitude que c'est bien une brasserie, c'est là qu'ils font une descente.
Vous avez intérêt à ne pas vous bourrer, madame.
Si vous décidez de franchir cette porte, vous posez le pied dans un champ de mine. Et plus question de faire marche arrière.
J'ai compris.
À la bonne heure. Donnez-moi la hache. Police fédérale!
Tout le monde les mains en l'air! Que personne ne bouge!
C'est une descente!
Tout le monde, j'ai dit tout le monde les mains en l'air!
On confisque toute la marchandise. Vous êtes en état d'arrestation.
Mais d'où ils sortent, ceux-là? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dites donc, vous avez un mandat?
Oui, j'ai un mandat. Le voilà!
In April of 1931, the Untouchables staged their first major raid and...
Enfin, en avril 1931, les Incorruptibles lancent leur première perquisition, leur première attaque d'envergure. Ils saisissent et détruisent une grosse partie de l'équipement dont se sert Capone. Et ça commence à lui coûter pas mal d'argent. C'était un des leviers les plus efficaces qu'ils avaient contre lui. Généralement, ils attendaient l'aube. Et les agents entouraient l'entrepôt, et puis, vous savez, ils lançaient le signal pour faire irruption dans l'entrepôt. Et à cet effet, mon grand-père inventa une sorte de pelleteuse, comme pour un chasse-neige, qu'on attachait à un camion de 10 tonnes et dont on se servait pour enfoncer les portes des brasseries et pour surprendre les gangsters. Et puis, ils s'engouffraient à l'intérieur et ils détruisaient les équipements. Une fois, lors de leur première attaque, le 10 avril 1931, ils ont détruit un premier système de portes. Et ils sont tombés sur un mur peint en noir qui dissimulait ce qui se passait derrière. Et donc, ils ont dû aussi abattre ce second mur, et ce n'est qu'après qu'ils ont pu accéder aux infrastructures de la brasserie.
Restez où vous êtes !
Et ça s'est passé le 10 avril 1931.
Police fédérale, arrêtez ! Vous êtes en état d'arrestation pour violation de la loi Volstead !
Une fois qu'ils ont été à l'intérieur, ils se sont mis à détruire à coups de hache et de lance-flammes les tonneaux de bière et les cuves. Cette brasserie, elle était censée rapporter au moins 2,5 millions de dollars par an. Ce jour-là, les agents ont saisi au moins 100 000 dollars de bière, ce qui en dollars de 1931 est vraiment énorme. Ils ont également confisqué 40 000 gallons, 150 000 litres de ferment dans des cuves et 150 tonneaux en attente de livraison. Le lendemain, c'était dans tous les journaux. Et c'est comme cela que Ness et les Incorruptibles ont commencé à faire parler d'eux à Chicago, mais aussi dans le reste des États-Unis.
Les Incorruptibles font vaciller le royaume de la paix. Ness, l'homme qu'on n'achète pas.
Cette fois, je vous tire mon chapeau. Félicitations. Ça vous va si je vous prends en photo avec vos hommes?
Ouais. Mais vous la publiez pas, hein, on la garde pour nous.
C'est vous qui décidez, monsieur Ness. Bon, serrez-vous. Voilà, très bien. Prêt ? Souriez.
En fait, l'idée, c'est vraiment d'assécher à la source, mais assécher au sens double du terme. C'est-à-dire, il faut priver ces vendeurs de leurs sources. Donc, ils ne puissent pas fournir leurs clients. Et s'ils ne fournissent pas leurs clients, bah, soit les clients vont voir ailleurs, soit ils arrêtent de se fournir. Et puis, c'est aussi assécher les revenus. C'est-à-dire que si ces délinquants ne tirent plus de revenus, ils ne vont plus pouvoir payer leurs hommes de main. Ils ne vont plus pouvoir payer les protections qu'ils ont dans les services de police, de justice, à la mairie. Et donc, ils vont être fragilisés. Donc, il y a vraiment cette dimension très intelligente de dire, finalement, si on attaque les speakeasy, on est en train de vider les lacs à la petite cuillère, et finalement, on n'arrivera à rien. Et en plus, on va se mettre à dos les consommateurs qui sont des Américains ordinaires, voilà, qui ne supportent pas que l'État leur dise quoi faire. et on va être beaucoup plus efficace. Mais c'est aussi beaucoup plus dangereux, parce qu'évidemment, faire un raid dans un speakeasy, vous avez face à vous le comptable ordinaire, l'instituteur ordinaire, vous ne risquez pas grand-chose. Si vous attaquez des distilleries ou des convois d'alcool qui sont protégés par des hommes en armes aguerris, qui n'ont pas peur de faire de coups de poing et qui n'ont pas peur de tuer des représentants des forces de l'ordre, là, vous voyez que le risque est quand même légèrement différent.
The reaction of Capone and the gangsters to the Untouchables' efforts was that Capone was furious.
La réaction qu'ont eu Capone et ses hommes face aux efforts des incorruptibles, ça a été la colère. Pour preuve, Elliot Ness avait un chauffeur à une certaine époque, Frank Basile, et bien il s'est fait descendre par Capone et son gang. Les incorruptibles savaient que de l'autre côté, ils étaient carrément furieux. Il y a cette histoire très connue avec Marty Layard, un des incorruptibles, qui était réputé pour avoir un grand sens de l'humour. Il a imaginé une petite mise en scène avec tous les véhicules que les incorruptibles avaient confisqués à Capone et qu'ils gardaient dans un garage. Tout le monde sait que Capone et ses hommes portaient des fedoras de couleur perle. Du coup, Marty Layard a rassemblé tous les incorruptibles, les a tous affublés d'un fedora identique et ils sont partis parader dans les camions et tous les véhicules confisqués à Capone devant le Lexington Hotel, là où il avait ses bureaux. Et juste avant de passer devant l'hôtel, ils l'ont appelé au téléphone pour lui dire de bien regarder par la fenêtre ce qui se passait dans la rue. Et eux, ils faisaient comme une parade dans la rue avec tous les camions et tout le matériel qu'ils avaient confisqué. Ça ne lui a vraiment pas plu, il écumait de rage.
D'après Elliot Ness, d'après les notes de son rapport final à ses supérieurs, les incorruptibles ont saisi 6 brasseries, 5 entrepôts de distribution de bière, 4 alambics, 25 camions et 2 voitures, ce qui a causé à l'organisation de Capone plus de 9,1 millions de dollars de manque à gagner annuel. Et l'ensemble du matériel saisi, les véhicules et la bière, représentent une somme d'environ 1 million de dollars. Cela au moment où l'organisation générait, d'après les estimations, environ 100 millions de dollars par an. Cela ne représente donc qu'une fraction de leur activité. Mais c'est crucial. Au début des années 30, la fabrication et la contrebande de bière, c'est le cœur même de leur puissance économique. Et ça entame notamment leur capacité à corrompre les institutions. Il y a eu un effet domino parce qu'ils n'arrivaient plus à payer leurs hommes et ça a ébranlé sérieusement l'organisation. Ça a causé de gros dégâts, non seulement pour la mafia, mais surtout, ça a jeté le doute sur la capacité de Capone à conserver le pouvoir.
Ness et les incorruptibles se sont retrouvés sous les feux des projecteurs dans tout le pays. Les journaux se sont mis à couvrir leur raid. D'ailleurs, si vous allez aujourd'hui à la Société historique de Cleveland, vous pouvez toujours lire les lettres envoyées par des Américains des quatre coins du pays à Elliot Ness pour le remercier de mettre un terme au crime et à la violence qui sévissait à Chicago. Mais parallèlement, cela a aussi permis à l'administration fiscale et à ses agents d'examiner tranquillement les registres comptables, les reçus, les factures et de construire solidement l'aspect financier du dossier contre Capone.
La brigade des croisés marque des points.
Alors, ça avance.
Capone est à la tête d'une organisation extraordinairement diversifiée. Regardez ça. Elle détient la financière canadienne de commerce et d'industrie, qui détient à son tour les teinturiers réunis, les taxis du Midwest, les jouets jolis navires.
Les jouets jolis navires ?
Oui.
Les jouets jolis navires ?
Faites-moi penser à acheter un
les
cadeau.
Les pépinières de l'oncle Franck, la société d'import-export des Caraïbes, Lucie Chiffonneau, et la liste est sans fin. Et toutes ces affaires sont parfaitement légales et aucune n'appartient à Al Capone. Mais on coincera pour fraude fiscale si on arrive à faire la preuve qu'il touche sous quelque forme que ce soit des sommes provenant de cette organisation. Le truc, c'est que légalement, il n'a pas de revenu.
Il n'a aucun revenu.
Excusez-moi, monsieur Ness. Quelqu'un veut
vous... Intelligence Unit, which was headed by Elmer Eyre.
Le service du renseignement était dirigé par Elmer Eyre, et c'est lui qui a chargé un homme qui s'appelait Frank Wilson d'être à la tête de cette enquête. Et Wilson, il travaillait très discrètement à Chicago, avec juste une poignée d'enquêteurs. Il avait notamment un agent qui s'appelait Michael Malone, qui avait été envoyé pour infiltrer l'organisation de Capone. organization. Et étant infiltré, il a découvert plein de choses très intéressantes. C'était bien avant la mode des agents infiltrés sous couverture, en Amérique dans les années 70-80, bien avant tout cela. Donc, Michael Malone a réussi à devenir ami avec plusieurs hommes qui travaillaient pour Capone. Et ce qu'ils lui ont dit les a aidés à renforcer le dossier. Mais en plus, il a découvert des documents, car c'est comme ça qu'on peut gagner un procès, avec des preuves tangibles, pas seulement avec des conversations, des on-dit. Ils sont tombés sur de véritables registres qui mettaient clairement en lumière les revenus que Capone tirait de ses opérations de contrebande.
Wilson et son équipe de comptables ont été les vrais moteurs de cette enquête. Des hommes avec des registres comptables et des crayons, le nez dans les dossiers fiscaux, ce sont eux qui ont vraiment coincé Capone. Seulement, on ne fait jamais de film sur ces gens-là.
Al Capone n'est pas le seul mafieux à être tombé pour évasion fiscale. Il y en a eu bien d'autres. C'était le meilleur moyen pour s'en débarrasser, pour les mettre à l'ombre. Et ça s'est mis en place avec une décision de la Cour suprême qui annonçait que même si vos revenus découlaient d'une activité illégale, s'ils étaient acquis malhonnêtement, on parlait de revenus mal acquis. C'était la formulation. Vous deviez néanmoins en faire la déclaration et payer des impôts dessus. C'est un peu inextricable. Vous cachez vos revenus illégaux à l'administration, mais s'ils l'apprennent, vous êtes obligé de payer des impôts sur vos revenus illégaux. C'est ce qui a finalement permis de poursuivre tous ces mafieux.
Le ministère du Trésor va devoir prouver une inadéquation entre son train de vie,
Fabrice Risoli,
Al Capone,
spécialiste de la grande criminalité et des mafias,
et ses véritables revenus. Je rappelle, il en a zéro des revenus, il gagne rien. Mais il a une voiture blindée, il a des costumes à 5 000 $, il vit dans un très bel immeuble. Donc, cette inadéquation entre le train de vie et les revenus permet au ministère du Trésor et à son enquêteur de dire donc, vous gagnez factuellement de l'argent du trafic d'alcool et vous ne m'avez jamais payé d'impôts.
Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'à cette époque-là, blanchir de l'argent n'est pas illégal. Il faut attendre 1986 pour que les États-Unis criminalisent le blanchiment d'argent. C'est le premier pays au monde à le faire. Jusque-là, qu'il y ait des flux d'argent sale, ça ne posait pas problème. Donc on ne pouvait pas le faire tomber pour ça. Donc la fraude fiscale, c'est un peu l'idée géniale qui va inspirer par la suite tout ce qui est « follow the money ». Puisqu'on n'arrive pas à les prendre sur leur activité, on va les attaquer sur leur enrichissement. Alors maintenant, c'est en lien avec le blanchiment, c'est-à-dire de dire bah là, il y a un patrimoine qui ne correspond pas aux revenus déclarés. Donc, s'ils n'arrivent pas à prouver que ça n'est pas lié à l'illégalité, on a le droit de confisquer. À ce moment-là, c'était simplement de dire vous devez de l'argent au fisc américain. Donc, c'était aussi des peines qui n'étaient pas aussi fortes que si on avait pu le coincer pour contrebande d'alcool.
Vous savez qu'il se fait plus de 3 millions de dollars par an ? Mais il n'a pas un sou à son nom, du coup c'est net d'impôts. Si nous arrivons à prouver que des versements lui sont faits, nous pourrons le poursuivre en justice pour fraude fiscale.
Juger un meurtrier parce qu'il n'a pas payé ses impôts ?
Ben, c'est mieux que rien.
D'accord. Comment fait-on le lien entre lui et l'argent ?
J'en sais rien.
Normally, if you have a delinquent taxpayer,
normalement, si on a un contribuable qui n'a pas bien déclaré ses impôts, qui se présente à l'administration et qui dit « J'ai fait une erreur, je le reconnais, je veux qu'on règle ça, je suis prêt à payer une pénalité », la plupart du temps, pratiquement sans aucune exception, on va lui donner l'occasion de se racheter, de payer une très grosse amende peut-être, d'avoir un redressement fiscal, mais il ne va pas être poursuivi. Al Capone et ses avocats vont donc au-devant de l'administration fiscale et leur soumettent une estimation de ses revenus qui est certes ridiculement en deçà de la réalité. Mais c'est une proposition de négociation. Et non seulement, malgré cette offre, on le poursuit, mais en plus, l'administration retient contre Capone ce document qui leur a été donné par ses avocats comme preuve de sa culpabilité, ce qui est contraire à la loi. Mais le juge l'autorise. L'utilisation de cette lettre, que la presse a qualifiée de confession de Capone, ce qu'elle n'était pas, puisque c'était en fait une proposition d'accord de règlement de la dette avec le fisc, eh bien, l'utilisation de cette lettre et sa production devant un tribunal comme pièce à conviction, ça dépassait les limites du cadre de la loi. Pourquoi cela a-t-il été autorisé dans une salle de tribunal? C'est bien la preuve qu'il ne s'agissait pas, en fait, de récupérer des impôts impayés. C'est la preuve qu'il s'agissait de faire un exemple sur quelqu'un qu'on avait laissé hors de contrôle pendant plus de 10 ans. Alors, puisqu'on n'autorise pas Capone à régler sa dette fiscale auprès des impôts, il fait une offre à travers ses avocats, un deal. Capone accepte de plaider coupable en échange d'une peine de 2 ans et demi de prison, ce qui reste gérable, puisque Capone vient à peine d'avoir 30 ans. Ça lui aurait permis de ressortir encore dans la fleur de l'âge. Peut-être que la crise économique se serait évaporée et qu'il aurait pu retrouver intact tout son pouvoir. Ça lui était déjà arrivé de se retirer des affaires en se mettant quelque temps à l'ombre en prison. C'était un classique. Il était donc d'accord pour payer un peu de son temps pour être un peu puni. Et voilà, après, il aurait repris le cours de sa vie. Johnson accepte ce marché parce que ça écarte la possibilité que le dossier s'effondre, ce qui risquait de lui coûter sa carrière. Ça aurait permis d'apporter une victoire au président Hoover et puis de se débarrasser de Capone pendant l'exposition universelle qui était aussi, en fait, au cœur du problème. Donc apparemment, ça pouvait arranger tout le monde, mais c'était au juge Wilkerson de signer cet accord. Et à ce moment-là, Capone, parce qu'il est incapable de se contrôler, en fait, se présente au tribunal, plaide coupable comme convenu et immédiatement se vante auprès de la presse du merveilleux accord qu'il a réussi à négocier et du fait qu'il n'aura que 2 ans et demi de mise à l'écart. Ça sort donc dans les journaux, et le juge Wilkerson, qui a l'ambition d'accéder à de plus hautes fonctions, voit d'un assez mauvais œil le fait d'être identifié comme celui qui a laissé Capone s'en sortir avec une petite tape sur les doigts. Alors, sous les yeux horrifiés de la défense, mais aussi de ceux du procureur, le juge dit en substance que plaider coupable équivaut à un aveu de culpabilité. J'attends donc de vous que vous témoigniez de vos activités illégales. Le procureur m'a certes fait ses recommandations, mais à la fin, c'est la cour qui décide de la sentence. Je veux bien vous écouter, mais en dernier lieu, c'est moi qui prendrai tout seul la décision. Ça n'arrange pas du tout Capone, cette affaire. Par conséquent, il veut se rétracter et ne plus plaider coupable.
Le juge Wilkerson a fait 2 choix hautement déterminants dans cette affaire. Premièrement, il a refusé la demande d'entente sur le plaidoyer. La deuxième décision qu'il a prise est vraiment très intelligente.
Vous avez bien compris mes instructions, monsieur.
Oui, votre honneur.
De quoi il parle? Qu'est-ce qu'il raconte?
C'est bien entendu, je veux que vous intervertissiez les 2 jurys.
Bien, votre honneur.
Objection, votre honneur.
Objection rejetée.
Il craignait que le jury ne soit corrompu par Capone, que les jurés soient achetés ou menacés, ou que ce soit très dur de trouver un jury qui ne soit pas favorable à Capone. Donc, le premier jour du procès, il a rassemblé tous les jurés devant lui. « Ok, vous, les gars, vous n'allez pas être le jury pour ce procès. Vous allez redescendre dans le hall, vous allez être jury pour cet autre procès qui se passe en bas. Vous allez échanger vos places avec l'autre jury. » Et donc, les nouveaux jurés sont arrivés, ils ont été le jury pour le procès de Capone. Et ils ne s'y attendaient pas du tout. Capone, il n'avait pas vu le coup venir. Il n'avait évidemment pas pensé à graisser la patte des jurés d'un autre procès. Ils ont donc récupéré un jury, blanc comme neige, hors de tout soupçon pour ce procès.
Je pense qu'il va y avoir ce problème des erreurs de stratégie de procès, où il a pris de mauvais avocats qui ne sont pas spécialistes en fiscalité. Mais il y a quelque chose qu'il aurait pu jouer, c'est qu'il aurait pu activer la prescription des délits contre lesquels il était accusé, parce que les délits de ne pas avoir, par exemple, payé d'impôts, etc., pouvaient remonter parfois à 1924. Et ça, il aurait pu jouer la carte de la prescription. Je ne sais pas si ça aurait fonctionné. Je ne suis pas comptable de l'avenir. Mais il a quand même pas mal raté son procès. Ça, c'est une vraie donnée.
The one thing Capone, for all his wealth,
S'il y a une chose que Capone n'a jamais pu s'acheter, même avec tout son argent, c'est une bonne équipe d'avocats. Il avait des avocats complètement nuls, qui ne connaissaient pas bien les lois fiscales, qui n'avaient pas la compétence requise pour comprendre les subtilités d'un dossier comme celui-ci. Et ils auraient pu ou dû se saisir de ce problème de prescription et faire annuler le procès pour vice de forme. Mais non, ils ont manqué leur coup.
Al Capone, le plus notoire bandit qui suscitait la prohibition, fut condamné à purger une peine de 11 ans pour fraude fiscale.
Capone a été déclaré coupable et a écopé de 11 ans de prison. Et quand bien même le gouvernement fédéral avait fait ce choix de le poursuivre plutôt pour évasion fiscale que pour infraction à la prohibition, eux-mêmes ne s'attendaient pas à une condamnation de 11 ans. C'est une peine lourde et ça envoie un message clair. Ce type, c'est l'ennemi numéro un de notre pays. On va le retirer de la circulation. Mais s'il prend l'envie à quiconque de prendre sa place, voilà ce qui vous attend.
Capone, when that comes down, is visibly shocked.
Quand le verdict est annoncé, Capone est sous le choc. Il se tourne vers son avocat, il demande si c'est vraiment 11 ans. 11 ans, vraiment ? Tout le monde est sous le choc.
Beaucoup constatent qu'on embête davantage les petits criminels comme Capone qui ne paient pas leurs impôts.
Romain Huret, historien spécialiste de l'histoire des États-Unis.
Que les criminels en col blanc, comme on commence à les appeler, hein, que sont les hommes d'affaires ou les comptables qui ne paient pas leurs impôts, mais à qui on laisse une certaine impunité.
One of the issues of Capone's legacy is that he was Italian.
Lou Corsino, professeur de sociologie.
L'un des éléments problématiques dans l'histoire d'Al Capone, c'est qu'il était italien. Et le fait d'être italien, ça a été une sorte de désavantage pour Al Capone. Un gage. Un gage parce qu'il y avait, et spécialement dans les années 20, après la période des grandes migrations, avec le nouveau statut des immigrants, une sorte de sentiment anti-italien très fort. Et dans le cas de Capone, je crois qu'en plus d'être condamné pour ses activités illégales, ça avait à voir avec ça, avec le fait qu'à la base, il était italien. Et beaucoup de gens voulaient qu'on les remette à leur place, qu'on rabatte le caquet de ces Italiens. Parce que, quelque part, les Italiens, ils remettaient en cause les valeurs traditionnelles de l'Amérique. D'ailleurs, on peut faire la comparaison avec le sort des Kennedy. Exactement au même moment, mais cette fois en Nouvelle-Angleterre, ils s'occupaient... Joseph Kennedy, le père du président, s'occupait en grande partie du même genre d'activité illégale.
Joe Kennedy est typiquement ce que les Américains ont appelé un baron voleur, hein, de ces industriels et financiers qui ont été à l'origine de la crise de 1929.
Jean-François Guéraud, commissaire général de la police nationale, spécialiste du crime organisé.
Ce qui n'empêchera pas Joseph Patrick Kennedy d'être le premier gardien des marchés financiers, hein, de la SEC. Bon, ce qui est quand même une ironie de l'histoire, mais lui a réussi en effet à passer entre les gouttes. Et c'est toute la problématique donc de ces crimes d'en haut, de ce qu'un grand sociologue américain dans les années 40, Sutherland, a appelé la criminalité en col blanc, les crimes des élites, des crimes qui sont beaucoup plus difficiles à voir, à caractériser et à poursuivre, alors même que les crimes d'école bleue, enfin moi de ce que j'appelle l'école bleue, donc des organisations criminelles, ont une beaucoup plus grande visibilité. Et en effet, dans cette dialectique entre la mafia italo-américaine et Joe Kennedy, il y a quelque chose de tout à fait étrange, puisqu'en fait, ils n'ont jamais cessé de coopérer et de collaborer dès les années 20 jusqu'aux années 60, puisque Joe Kennedy a passé un pacte avec le diable, avec quelques familles de la mafia italo-américaine dès les années 50, donc pour mobiliser des voix en faveur de son fils John pour qu'il soit élu président des États-Unis.
The Kennedys never had to pay the price that Capone had to pay.
Les Kennedy n'ont jamais eu à payer le prix que Capone a eu à payer en termes d'image auprès du grand public. C'est pour ça, je crois, que si on met côte à côte, si on compare le côté italien de Capone et le côté irlandais des Kennedy, même si à l'origine ils avaient le même genre d'activité, le résultat, c'est que les efforts pour mettre un terme à leurs infractions ne sont pas les mêmes. Et c'est, je crois, quelque chose qui a rongé Capone. Il a eu cette phrase célèbre, je pense que vous avez dû la lire quelque part, où il dit « Quand j'offre de l'alcool aux gens du South Side au sud de Chicago, on dit que je fais de la contrebande. Mais quand ça se passe au nord de Chicago, on appelle ça de l'hospitalité, du savoir-vivre. » Et c'est bien l'idée que des faits semblables sont interprétés de manière totalement différente selon qui les commet. Pour conclure, oui, je pense qu'il y avait dans les années 20 un très fort sentiment anti-italien, un très fort sentiment anti-immigrant.
Finalement, l'État a eu la peau de Hal, l'ennemi public numéro un. Alors qu'on le pensait au-dessus des lois, Hal a été rattrapé par la patrouille et condamné à 11 ans de prison. Ce qui est beaucoup et peu à la fois. Hal est encore jeune, à peine la trentaine, et il peut espérer retrouver sa couronne à Chicago après sa libération. Peut-être même pourrait-il sortir plus tôt que prévu pour bonne conduite. Mais avant de penser à ça, dans le prochain épisode, nous serons avec Hal dans la prison d'Alcatraz, aux côtés des pires criminels du pays. Et comme souvent, Hal va encore nous surprendre en jouant le prisonnier presque modèle. Un banjo dans une main et une serpillière dans l'autre.
L'alcool de bois, ça rend fou. Celui qui en boit, il est fou. La gueule de bois, ce n'est pas tout. Le lendemain matin, tu n'y verras plus du tout. Mais les incorruptibles s'intéressaient à lui. Dans tout Chicago, il cherchait ses distilleries.
C'était Al Capone, roi des gangsters. Épisode 4, plus dur sera la chute. Avec Brad Schwartz, Scott Sroka, Clotilde Champerrache, Wayne Johnson, Geoff Schumacher, Paul Durica, Hélène Arter, Richard Lindberg, Fabrice Risoli, Romain Huré, Lou Corsino et Jean-François Guéraud. Avec les voix de Éric Charron, Thierry Beauchamp, Philippe Girard, Yann de Monternau, Claude Bernard Perrault, Olivier Martineau et David Sigicelli. Traduction, Abigail Boucher, Park Crozen, Fanny Brett-Rabot et Laurence Jamet. Archivina, Ingrid Lepointe. Extrait du film Les Incorruptibles de Brian De Palma et extrait de la série Les Incorruptibles. Documentation musicale, Antoine Vuillot. Prise de son extérieur, Martin Troadec. Prise de son studio, Manuel Couturier, Guillaume Ledu, Antoine Espel, Cédric Châtelu et Lucas Derode. Mixage, Jason Taous. Coordination, Christine Bernard. Une grande traversée de Federico Polo Devoto, réalisée par Marie-Laure Ciboulet.
Tous ces alcools prohibés, c'est du pétrole raffiné, du vitriol destiné à te faire tomber raide avant même d'y goûter. Mais les incorruptibles s'intéressaient à lui et un beau jour ils firent sauter ses distilleries. Puis les incorruptibles, afin d'arroser ça, s'envoyaient au miroir du coin. Devinez quoi? Des ice cream soda. Oh.